Bonsoir et soyez les bienvenus à l'écoute des RFI, les 20h30 ici à Paris, 19h30 à Dakar et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous. Au Bénin, le verdict est tombé dans le procès de complot contre l'autorité de l'État. Olivier Bocco, l'homme d'affaires et ami de Patrice Talon, son beau-frère et l'ancien ministre des Sports ont été condamnés à 20 ans de prison et à de lourdes amendes. En RDC, après Kinshasa, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est à Kigali. Une démarche diplomatique visant à désamorcer la crise dans l'est du pays. Nous y reviendrons avec Pierre Firsion. En Ouganda, une épidémie d'Ebola déclarée à Kampala, où l'on dénombre déjà une victime. Le grand oral en Suisse pour les prétendants au fauteuil de patron du CIO, le Comité international olympique. 7 candidats en lice, parmi lesquels l'ancienne nageuse du Zimbabwe, Kirsty Coventry, double championne olympique 2004 et 2008. Le verdict a été rendu tout à l'heure à Cotonou dans le procès de complot contre l'autorité de l'État et la justice condamne lourdement Olivier Bocco, l'homme d'affaires et ami de Patrice Talon, le chef de l'État, son beau-frère et l'ancien ministre des Sports à 20 ans de réclusion criminelle. La Cour les condamne également à payer 60 milliards de francs CFA de préjudice. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
La Cour a suivi le ministère public seulement sur les 3 acquittements. En revanche, elle a doublé les peines requises par le ministère public et majoré de façon substantielle le préjudice à payer solidairement. Après l'énoncé du verdict et en retournant à sa place, Oswald Rumeki et Olivier Bocco serrent quelques mains. L'homme d'affaires demande à sa fille de lui apporter son repas. C'est elle qui assure ce service depuis le début du procès. Le ministère public, dans un très long réquisitoire, a conclu dans la matinée qu'ils étaient coupables de toutes les infractions. Oswald Rumeki, par une générosité inhabituelle, a acheté le colonel pour briser sa loyauté envers le chef de l'État et varier ses versions. Il travaillait pour Olivier Bocco, le seul capable de mobiliser autant d'argent. À la barre, l'homme d'affaires avait protesté en ces termes. Ce procès est cousu de fil blanc. Je suis innocent. Vous me jugez par déduction. Oswald Rumeki lui a demandé à la cour pourquoi tout ce que le colonel dit est pris pour agent comptant et nos versions à nous sont remises en cause. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie française a entamé ce matin une mini-tournée dans la région. Bonsoir Pierre Firsion.
Bonsoir Sylvie.
Jean-Noël Barrot était à Kinshasa ce matin. Il s'est entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi. Il a ensuite rallié Kigali en fin d'après-midi.
Oui, la capitale rwandaise où il doit s'entretenir avec Paul Kagame. La rencontre devrait finalement avoir lieu demain matin selon nos informations. Quelle sera la teneur de son message? Selon son entourage, Jean-Noël Barrot va demander le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC. Cette demande avait déjà été formulée samedi par Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique avec le président rwandais. Mais depuis, il y a eu cette offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises sur Goma. Et Paris semble désormais vouloir hausser le ton. Ce jeudi, Christophe Lemoyne, le porte-parole du Quai d'Orsay, a appelé les forces rwandaises à, je cite, « quitter instamment la République démocratique du Congo ». Et le M23 a, selon ses mots, se retirer immédiatement des territoire dont il a pris le contrôle. Et Christophe Lemoyne d'ajouter, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables. Avant cette étape rwandaise, Jean-Noël Barrot s'était rendu à Kinshasa pour un entretien avec Félix Tshisekedi. La rencontre a duré un peu plus d'une heure. Le président congolais lui a fait part de son analyse de la situation dans l'Est et a réitéré ses regrets suite à l'attaque mardi contre l'ambassade de France à Kinshasa. Cette démarche diplomatique française s'inscrit selon Paris en soutien au processus de Luanda et de Nairobi, des médiations conduites par l'Angola et le Kenya, respectivement au nom de l'Union africaine et de la communauté des États d'Afrique de l'Est, est-il précisé.
Et j'ajoute que l'ONU se dit très inquiète de la situation volatile dans le sud Kivu, dans l'est du pays, en particulier d'informations crédibles, je cite, de l'avancée du groupe armé M23 vers Bukavu. Déclaration ce jeudi du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, qui évoque aussi des informations faisant état de mouvements des forces de défense rwandaises à travers la frontière dans cette direction. Fin de citation. C'est la fin effective de la présence militaire française au Tchad. La rétrocession de la 3e et dernière base militaire française a eu lieu ce matin. Il s'agit de la base d'Adji Kossé à N'Djamena. Les 180 derniers militaires ont quitté le sol tchadien dans la journée. Nadia Ben Mafoud.
Une cérémonie en petit comité entre militaires français et tchadiens s'est déroulée loin des caméras ce matin au sein de la base. Le général Daoud, chef d'état-major général des armées du Tchad, et le général Pascal Yanni, à la tête du commandement pour l'Afrique de l'armée française, ont pris la parole. Le drapeau français a ensuite été baissé, la clé de la base a été rendue, puis les procès-verbaux de transfert ont été signés par les deux généraux. Cette rétrocession, je cite, vient boucler définitivement la présence des forces françaises au Tchad, et cela conformément à la volonté des hautes autorités tchadiennes, a précisé le directeur de communication de l'armée dans ce communiqué publié ce matin. C'est la dernière des trois bases militaires françaises qui a été aujourd'hui rendue aux Tchadiens. Les deux autres, celles de Faya et d'Abéché, ont été rétrocédées respectivement les 11 janvier et 26 décembre après un coup d'envoi donné par le départ des avions de combat Mirage 2000 début décembre. De sources militaires françaises, les deux armées se quittent bons amis après, je cite, de nombreuses années passées à combattre côte à côte. Les Français attendent désormais de savoir ce que souhaiteront les autorités tchadiennes. Le président Mahamat Idriss Déby avait fait savoir qu'il souhaitait réorienter la coopération avec la France vers des domaines qui favorisent l'intérêt du peuple tchadien. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Les autorités sanitaires ougandaises donnent l'alerte après la découverte confirmée par des laboratoires d'un premier cas du virus Ebola dans l'est du pays. Les autorités donnent donc des recommandations pour faire face à cette nouvelle épidémie, la huitième pour ce pays. Guillaume Thibault.
L'annonce, par communiqué sur les réseaux sociaux, a été faite par le ministère de la Santé. C'est un infirmier de 32 ans, employé à l'hôpital de Mulago, à 100 km au sud-ouest de la capitale Kampala, qui a été testé positif au virus Ebola. Ce jeune homme, présenté comme le cas index, c'est-à-dire le premier malade de l'épidémie, est décédé ce mercredi. Trois laboratoires ont confirmé qu'il a été contaminé par le virus Soudan. Une seconde souche existe, la souche Zaïre. Le virus Soudan est enzootique, transmis donc par les animaux sauvages. Problème pour les autorités, ce patient est allé se faire soigner dans deux hôpitaux, près de Kampala, dans celui de la ville de Mbale, à l'est du pays, et chez un guérisseur traditionnel. Pour le moment, 44 personnes, des agents de santé, des patients et des membres de la famille du défunt ont été placés à l'isolement. Les autorités sanitaires, qui appellent le personnel médical à la plus grande vigilance, ont déclenché les plans d'opération d'urgence dans les hôpitaux de Mbale et de Kampala.
Guillaume Thibault, vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 19h, bientôt 38 minutes en temps universel. On part en Suisse à présent car c'était un temps fort de la campagne pour la présidence du CIO, le Comité International Olympique, qui doit changer de patron. Ce sera le 20 mars prochain. Il y a 7 candidats prétendants au fauteuil. Ils ont passé leur grand oral hier à Lausanne devant les membres du Comité International Olympique à huis clos pour présenter leur projet pour l'organisation. Quel avenir pour le CIO? Cinquième par ordre de passage, l'ancienne nageuse du Zimbabwe, Kirsty Coventry, double championne olympique 2004 et 2008. Au CIO depuis 2013, elle a donc présenté sa candidature et défendu son dossier, le tout dans un temps très limité. À Lausanne, Christophe Diremsian.
15 minutes, pas une de plus, pour convaincre, se démarquer et définir ses priorités. Mieux soutenir financièrement les athlètes, notamment africains. Kirsty Coventry l'a mise en haut de sa liste car elle parle d'expérience.
Durant ma carrière, ça a été facile d'obtenir des partenaires dès que j'ai eu une médaille. C'était obtenir cette médaille qui était dure. Donc j'ai parlé de programmes qui aident les athlètes à devenir des Olympiens, mais aussi qui les aident à l'issue de leur carrière et sur la façon dont nous pouvons utiliser notre large réseau pour optimiser leur avenir.
Ministre des Sports du Zimbabwe, membre de l'exécutif du CIO, présidente de deux commissions de coordination de Jeux Olympiques, et tout ça en étant maman pour la deuxième fois fin 2024, et alors, tout est question d'organisation.
Quand j'ai commencé à être ministre, j'étais enceinte de ma première fille. J'ai dû vite apprendre à être une femme avec une carrière, une mère et une épouse. Et c'est faisable. J'ai eu le soutien de ma famille. J'ai toujours réussi grâce à une bonne équipe, et ça continuera.
Et ne lui dites pas qu'elle est la favorite de Thomas Barr, l'étiquette est à décoller.
Nous partageons une philosophie et des idées, mais pour cette élection, il a choisi de ne pas voter. Et je crois fermement qu'il est équitable envers tous les candidats.
Si la plus jeune des prétendantes en course doit devenir la première femme à la tête de l'institution, elle veut l'être pour ses qualités et son expérience, même si le symbole serait fort. Christophe Diremsian, Lausanne, RFI.
Enfin, bonne nouvelle pour la Guinée où la maladie du sommeil transmise par la mouche tsetse a été éliminé en tant que problème de santé, c'est ce qu'indiquait l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. C'est la fin de cette édition, il est 20h40 ici à Paris. Bonne soirée.